Thermidor, mort de monde. Louis XVI a été exécuté, mais il n'est pas mort. Le soir de ce jour n'est pas terminé, l'Empire n'a jamais pris fin. Thermidor, Brumaire. Une autre époque de notre histoire devait naître entre le 4 Brumaire de l'an 4 et le 18 Brumaire de l'an 8. Le Brumaire du Directoire est celui du Consulat. Le Brumaire de la fausse gauche est celui de la vraie droite. Les deux nouvelles modalités principales de la prison de fer noir. Ce morceau de planète qu'on appelle la France allait se faire un shoot de Jules Césarine avec Napoléon et se traîner misérablement le long de la Deuxième Restauration, du règne d'égalité 2, de la Deuxième République et du Second Empire. On allait nous jouer, comme dira l'autre, la même histoire comme tragédie et comme farce, comme sitcom avec réenregistré et comme film d'horreur. L'histoire qui vient est d'abord celle de l'accès à la domination illimitée de la bourgeoisie, masquée par le mythe national le plus grossier, le mythe du grand homme, l'homme providentiel qui servirait la grandeur de la France en envoyant au casse-pipe des millions de gosses pauvres. Un César en toc, trouvé dans une pochette surprise, une attraction pour touristes. Mais cette histoire est double, et même triple. Parce que cette histoire est aussi, comme l'a dit très simplement Babeuf, celle de la guerre des riches contre les pauvres, et donc celle des insurrections et des soulèvements, des conspirations pour l'égalité. Et elle est celle d'une spiritualité libre, née de la fin de l'hégémonie métaphysique du christianisme institutionnel. C'est l'histoire de la spiritualité révolutionnaire, dont les premiers prophètes seront ces poètes. Ces poètes qui, libérés des formes obligatoires du culte, retrouveront l'esprit des cendres. Ce n'est pas seulement Louis XVI qui n'est pas mort. C'est Robespierre, c'est Saint-Just, c'est Couthon. Ce n'est pas demain que vos noms seront oubliés et que votre rêve, qui était aussi celui de Jean-Jacques Rousseau, sera considéré comme obsolète. Et pendant que le petit président fait mine de pleurnicher avec tous les oiseaux de son espèce, « Le roi n'est plus là !» nous disons, avec le Rimbaud de 16 ans, Robespierre, Saint-Just, Couthon, les jeunes vous attendent. Les jeunes et les moins jeunes. C'est maintenant que l'histoire devient vraiment passionnante. C'est maintenant que ça commence. Fa, 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 fa. Mon nom est Paco Mthielman. Je ne suis pas historien. Je suis exégète. I'm just trying to be myself. I got everybody mad at me for it. Ce que nous faisons ici ne prétend pas plus à l'objectivité qu'à l'exhaustivité. Ce que nous faisons ici, c'est relire le roman national dans une autre perspective, celle de raconter cette éternelle histoire que Philippe K. Dick a ainsi résumée dans son exégèse, Le Christ contre César, tel est le récit sous-jacent rapporté à travers les âges depuis 2000 ans et qui en même temps n'est jamais rapporté. Pour cette troisième et dernière saison, nous irons à la recherche de ces traces de Napoléon à Macron. Et pour cet épisode, j'ai reçu l'aide précieuse de l'historienne Marie-Aimée Romieux et des historiens Raphaël Carbone et Karl Zimmer. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, saison 3, épisode 1. Napoléon Bonaparte, l'homme qu'on nous inventa. Napoléone Buonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon Bonaparte, est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il est mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, une possession de la Compagnie britannique des Indes orientales située au milieu de l'océan Atlantique. C'est le deuxième enfant de Charles et de Laetitia. Charles exerce la fonction d'assesseur de la juridiction royale d'Ajaccio. Laetitia est à la maison. Ce sont des gens pas riches. Ils ont une tripotée de mioches, leur petite maison est partagée avec leurs cousins et les deux familles se disputent sans arrêt allant jusqu'à se verser le contenu de leur pot de chambre sur la tête. Les Buonaparte sont d'une petite noblesse de robe. Cela fait frétiller l'escroc de l'Action française, Jacques Bainville, qui dans son livre sur Napoléon les dira « plus riches d'armoiries que d'écu » et qui ajoutera « la noblesse de sa famille ne lui en imposait pas, bien qu'elle fût assez authentique ».
Where's my goddamn hot water?
Calme-toi, Pépère. Les Buonaparte n'ont été anoblis que depuis le grand-papa.
Hot water, Carl.
I'm gonna get you some valet.
En 1779, le jeune Napoléonais entre à l'école militaire de Brienne. Sa langue natale est un dialecte corse. Il parle à peine le français. Mais il est bon en maths. Quand il a 16 ans, il intègre la compagnie des cadets gentilshommes de l'école militaire de Paris et son père meurt d'un cancer de l'estomac. Le 20 juin 1792, le jeune Bonaparte est spectateur de l'invasion des Tuileries. Moins d'un mois plus tard, le 13 juillet, il est nommé capitaine dans le contexte des conscriptions d'Antoniennes à Gogo après le manifeste de Brunswick pour défendre la patrie en danger. En août 1793, pendant la Convention, Bonaparte est présent au moment où royalistes et girondins livrent aux Anglais l'arsenal et la flotte française de Toulon. Il obtient le commandement de l'artillerie le 19 octobre 1793. Il reprend Toulon aux Anglais et il fréquente Augustin Robespierre, le frère de Maximilien. Après le 9 Thermidor de l'an 2 et la chute de Robespierre, Bonaparte est brièvement arrêté à Antibes pour amitié montagnarde. Il se dédouane vite de toute sympathie pour les Robespierre. Il est libéré et va à Paris. Sa sœur Pauline couche avec une pourriture, Fréron, un ex-pote de feu Danton, un de ses représentants en mission, corrompu, sanguinaire et responsable de la chute de Robespierre qui font la fête depuis Thermidor. Et c'est un autre pote de Danton, la pourriture Barras, qui le 5 octobre 1795 demande à Bonaparte de réprimer une insurrection royaliste à Paris. 300 morts, ça, c'est fait. Alors que Barras devient un des 5 membres du directoire, ainsi que Lazare Carnot, autre crapule anti-robespierriste. Bonaparte devient général en chef à 26 ans. Et le 11 mars 1796, Bonaparte, poussé par Barras et Carnot, rejoint l'armée d'Italie à Nice. Il va continuer les guerres de rapine qui avaient été lancées par les Girondins et qui ne sont toujours pas achevées. Au moment de Thermidor, les armées françaises étaient gagnantes sur tous les fronts. La perspective d'une paix générale semblait réalisable à court terme. On avait vu la Toscane signer un traité de paix avec la France le 9 février 1795. La Prusse signer la paix à Bâle en avril 1795, suivie par le Landgrave du Hesse-Cassel. Enfin, l'Espagne le 22 juillet 1795. Bref, à la veille de l'installation du directoire, la République française n'avait donc plus pour ennemi que l'Autriche et l'Angleterre. C'est le moment où les faiseurs de guerre qui s'étaient opposés à Robespierre, Lazare Carnot en tête, relancent le débat des conditions de survie de la République française fraîchement éclose dans une Europe remplie de monarchies. Et c'est reparti, à la Brissot, à la Danton, sur les nouvelles limites de la France. On voit alors s'opposer aux partisans d'une paix immédiate, les partisans d'une paix glorieuse, et les partisans d'une paix immédiate, en gros ceux qui s'opposent aux guerres de pillage et à l'annexion de la Belgique comme de la rive gauche du Rhin, sont qualifiés par les partisans de la paix glorieuse de, je cite, « faction des anciennes limites ». Astuce. Ne dites plus « je viens vous faire la guerre ». Dites « je viens faire une paix glorieuse ». Je ne suis pas de la faction des anciennes limites, moi, monsieur.
Des boomers, comme on dit.
Bonaparte n'est pas Saint-Just ou Couthon. Une fois en Italie, puis en Égypte, le général sans gêne se serre et serre notre bande de fripouilles partout où il pose les pieds. Le directoire est content. Il s'en met plein les poches, alors que Bonaparte remporte victoire sur victoire. Arcole, Rivoli, Pyramide... Les trucs qu'on grave sur les monuments et qui donnent des noms de rues ou de stations de métro. Pourtant, quand on se penche sur les causes de ces guerres et à la façon dont elles ont été menées, Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. À chaque fois que vous voyez ces monuments érigés à la gloire de la barbarie, pensez au nombre de victimes innocentes que ces noms de victoire recouvrent. Dans le pays, alors même que c'est devenu non seulement illégal, mais passible de mort, on voit, dans la continuité de Babeuf, des tentatives discrètes de reprendre la flèche montagnarde. Le 6 juillet 1799, c'est le club du Manège, une réunion des amis de la liberté et de l'égalité qui regroupe des anciens robespierristes et babouvistes. Même s'ils ont quelques partisans en province, ça reste marginal. Mais c'est déjà trop. On commence à dire que ces néo-jacobins, ces anarchistes, vont faire fuir les riches du pays et seront responsables du chômage et de la faillite. Déjà ? Oui, déjà.
C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine.
L'esprit socialo-marxiste.
Oui.
Et non seulement toute tentative démocratique est conspuée et réprimée sous le vocable d'anarchiste, mais elle est instrumentalisée pour monter d'un cran en autoritarisme. Parce que c'est ça, la question qui les tracasse. Doit-on ou doit-on pas basculer dans le contrôle vraiment autoritaire du pays ? C'est-à-dire un pouvoir exécutif fort qui soit en mesure à la fois d'empêcher le retour des nobles émigrés qui voudraient récupérer leurs biens devenus entre-temps biens nationaux et de réprimer toute poussée démocratique afin d'assurer définitivement le triomphe de la bourgeoisie.
Parce que c'est notre projet !
On nous dira plus tard que Barras était en train de négocier un retour possible des Bourbons pour 12 millions de livres. C'est possible, hein ? Les dantonistes sont comme ça. Spoiler ! Les Bourbons reviendront quand même. Ministre des Relations extérieures du Directoire depuis le mois de juillet 1797, Talleyrand hésite d'abord à tout filer à un Orléans. Le fils de Philippe Égalité, Louis-Philippe, l'artiste précédemment connu sous le nom d'Égalité II. Et lui aussi, il va bientôt pointer sa fraise pour manger sa part du gâteau. Mais pour l'instant, Talleyrand fait du consulting et il aboutit à cette conclusion. Un bidas, ce serait mieux. Alors, qu'est pas ça ?
Qu'est-ce qui se passe ?
En pleine campagne d'Égypte, Bonaparte lâche son armée et retourne à Paris pour être à l'heure pour le coup d'État du 18 Brumaire. Bon, il y avait intérêt à se presser, hein, parce qu'il y avait de la concurrence. Il y avait un autre général en lice, Joubert. Heureusement, Joubert casse sa pique. Puis il y a Moreau. Mais Moreau va pas y aller. Comprenez bien. Bonaparte n'a pas pris une initiative. Bonaparte a répondu à un appel d'offres. Il est venu à un casting. Bonaparte est un premier rôle masculin. Le bon plan du 18 Brumaire, c'est d'utiliser la menace anarchiste fantôme comme excuse pour faire démissionner le directoire trop mollasson et imposer un pouvoir autoritaire. C'est ça le film. Mais c'était pas sur un scénario de Bonaparte. C'était sur un scénario de quelques requins du studio politique, en particulier Talleyrand. Et puis c'était le bon plan des producteurs du film, les banquiers. Le bon plan de Le Couteau de Canteleu et de Barillon, des hommes qui ont tiré leur fortune de l'esclavage et de la traite. C'était le bon plan de Perregaux, un banquier originaire de Neuchâtel. Et c'était le bon plan des fournisseurs de guerre, rétablis depuis la chute de Robespierre, et dont certains, comme Collot ou Ouvrard, se sont aussi enrichis avec les colonies. Alors, ils veulent avoir la paix à l'intérieur et des guerres partout pour se faire du fric. Et cette origine strictement commerciale du 18 Brumaire n'empêche pas le fanboy Bainville de bicher dans son Napoléon. D'instinct, les Français cherchent un chef. Ah bon ? Pourtant, c'est curieux. Les aspirations du pays sont confuses. Oui, je me disais aussi, c'était pas évident qu'ils cherchaient un chef. Mais un chef, il n'en est pas d'autre que lui. Si tu le dis. Et donc ? Donc, Bonaparte trouve la France à prendre. Quoi ? Bonaparte trouve la France à prendre ? Il y aurait toute une étude à faire sur la rhétorique du violeur dans le rapport que l'extrême droite entretient avec la France. « Monsieur le juge, c'est la France qui me voulait. Elle était chaude, elle m'allumait. » L'arnaque du siècle va se faire en 3 jours, les 18, 19 et 20 Brumaire. Le pitch, c'est le complot anarchiste, la menace imaginaire. Cette menace est suivie de provocations bizarres de Bonaparte vis-à-vis des députés qui ne croient pas à cette menace et décident de le décréter hors la loi. Puis son frère Lucien lance la fake news que les députés auraient essayé de le poignarder. Mais en fait, pas du tout. Et on fait croire à un pseudo-projet de coup d'État parlementaire, alors qu'en fait, il s'agit d'un coup d'État militaire.
You just totally scooped me, didn't you?
Sorry.
On se moque du monde et c'est que le début. Le spectacle ne fait que commencer. On dissout le directoire et on désigne 3 consuls dont on prétend qu'ils vont sauver le pays en danger. 3 mecs, mais pas tous en même temps, l'un après l'autre, par ordre alphabétique, et c'est Bonaparte qui commence. D'accord, hein. Le premier consul prend Talleyrand comme ministre des Relations extérieures et à la police, un démon, Fouché. Fouché, encore un envoyé en mission sanguinaire qui avait été dénoncé par Robespierre et qui a depuis un pied dans tous les salons. Pour amadouer Barras, qui n'avait pas forcément envie de céder sa place, on lui file une belle somme d'argent. We're only in it for the money. Et derrière, Bonaparte réforme le consulat pour ne pas lâcher le pouvoir. Mieux, il fait adopter une nouvelle constitution qui entre en vigueur le 25 décembre 1799 et dont l'objectif est de renforcer le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif en rendant ce dernier confus et inopérant. Mettre tout entre les mains d'un seul homme, lui-même. Regardez la petite combine, c'est mignon comme tout. Le pouvoir législatif est alors divisé en 3 assemblées. Un Sénat, nommé par le premier consul, Bonaparte donc. Sénat qui ne participe pas à la conception de la loi, mais sélectionne les membres des 2 autres assemblées. Un tribunat, nommé par le Sénat, qui discute les lois sans les voter. Enfin, un corps législatif, nommé par le Sénat, qui adopte ou rejette les lois sans pouvoir les discuter. La préparation de la loi appartient donc à l'exécutif, c'est-à-dire au premier consul, c'est-à-dire Bonaparte, lui-même, Bibi, Nono.
Je suis Nono, le petit robot.
Qui travaille avec le Conseil d'État. Et Nono peut corriger les résultats des votes s'ils ne lui conviennent pas. Nono décide des lois. Nono dirige la diplomatie. Nono nomme les officiers des armées. Nono nomme les fonctionnaires. Nono nomme les préfets à la tête des régions. 17 février 1800, date de la création des préfets. Préfet choisi par Lucien, le frère de Nono. Préfet choisi parmi la noblesse ou la bourgeoisie, et ne connaissant pas les régions dans lesquelles ils sont envoyés. Cette loi radicalise la centralisation du pouvoir exécutif commencé sous le directoire. Et c'est la création de cette administration préfectorale qu'on appellera ensuite un centralisme jacobin, alors qu'il s'agit clairement d'une centralisation bonapartiste. C'est ce que les historiens Marc Bélissa et Yannick Bosque n'ont cessé de nous expliquer dans leur livre, à juste titre. La centralisation administrative telle que nous la connaissons aujourd'hui prend sa source dans le consulat du petit Nono. Un mois plus tard, le 18 mars 1800, la justice est à son tour placée sous le contrôle du pouvoir exécutif. On supprime jusqu'au jury dans les tribunaux et c'est Nono qui nomme les juges. C'est à cette époque que Bonaparte peut dire au calme « Les Français sont indifférents à la liberté, ils ne la comprennent ni ne l'aiment, la vanité est leur seule passion et l'égalité politique qui permet à tous l'espérance d'arriver à toutes les places est le seul droit politique dont ils fassent cas. Il n'y a pas que le pouvoir législatif qui disparaît. Il y a toute forme d'opposition. » Jacques Bainville appellera cette séquence historique un trop bref âge d'or. Vous voulez rêver un peu de cet âge d'or? Très bien. Rêvons ensemble. Avant Brumaire, il y avait 73 journaux qui paraissaient en France. Par un arrêté du 17 janvier 1800, Bonaparte limite le nombre de journaux à 13, puis à 10. Au moment de la proclamation de l'Empire, ils ne seront plus que 8. Et tous les titres auront préalablement été rachetés et confiés à des amis du régime. Puis, c'est toute la production imprimée qui est placée sous l'inspection du ministère de la Police, qui peut saisir et détruire les stocks. Le 26 mars 1806, Nono expliquera « Une chose imprimée sans mon ordre, par le seul fait qu'elle est imprimée, constitue un appel à l'opinion et par conséquent, une indiscipline. C'est cette époque de rêve, donc, que Louis Sarkozy, le fils de son père, qualifiera, dans son espèce de livre sur Napoléon, de « nouveau départ pour les libraires, les bibliothécaires, les relieurs et les spécialistes de littérature dans tout le pays ».
C'est pas si mal. Il est pas cool, Mini Sarko, quand même.
Un poète, Théodore Desorgues, pour avoir écrit une chanson dans laquelle il dit « Oui, Napoléon est un grand caméléon », est interné à l'asile de Charenton. Nouveau départ pour Desorgues. À Charenton, Desorgues peut croiser le marquis de Sade, interné pour écrits pornographiques. Nouveau départ pour Sade. Et on supprime les théâtres. Ça fait des nouveaux départs pour pas mal de monde, tout ça. C'est pas tout. Fouché met au point un système centralisé de collecte et d'analyse de l'opinion. On parlera d'un réseau de 40 000 mouchards qui traînent dans les cafés, les jardins, les salons littéraires, les relais de poste ou les bordels et qui font des rapports hebdomadaires. Oui, le truc à rendre tout le monde parano. Des espions partout. Et pour avoir vraiment la paix, Fouché et Nono décident de tirer parti d'un attentat raté. L'attentat de la rue Saint-Nicaise le 24 décembre 1800. Un attentat organisé par des royalistes, mais attribué dans un premier temps à des néo-jacobins en toute connaissance de cause. Ce qui permet, bien que Fouché reconnaisse l'erreur dans un second temps, d'exiger une répression exemplaire, faisant établir le 1er janvier 1801 une liste de 700 personnes à arrêter et plus d'une centaine à déporter. Enfin, le meilleur pour la fin, le 19 mai 1802, Nono instaure la Légion d'honneur. Un ordre conçu pour rassembler les élites du pays et les placer en corps intermédiaires entre le pouvoir et l'opinion. Une saleté militaire encore à l'œuvre aujourd'hui. Au Conseil d'État, ça grince un peu. Hein. Théophile Berlier juge que l'ordre proposé conduit à l'aristocratie. Je cite Berlier, « Les croix et les rubans sont les hochets de la monarchie ». Réponse de Bonaparte ? C'est avec des hochets que l'on mène les hommes. On connaît cette remarque. On connaît moins la suite. Écoutons. Je ne crois pas que le peuple français aime la liberté et l'égalité. Ils sont ce qu'étaient les Gaulois, fiers et légers. Ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donc donner de l'aliment à ce sentiment-là. Il leur faut des distinctions. Ok César, maintenant Vercingétorix, c'est nous tous.
Alors bon, ça va un moment, mais comme on dit, il faut pas pousser mamie dans le gui.
Tout le pays au garde à vous, devant le laquais des riches. Parce que faut-il le préciser, les vrais maîtres, c'est pas Nono. Hein. Les vrais maîtres, c'est les riches. Les grandes fortunes ont travaillé à ce coup d'État. Alors elles vont se faire, à travers lui, un beau cadeau. Ce beau cadeau, c'est la Banque de France. Une banque indépendante de l'État qui prêtera à ce dernier avec intérêt. La Banque de France se donne comme une banque au service de la France, mais en fait, c'est une banque au service duquel Nono met la France. Créée le 18 janvier 1800 à l'initiative comme au profit des grands financiers qui ont soutenu le coup d'État, comme Perregaux et le couteau de Canteleu, en 1803, elle sera même seule à pouvoir produire du papier-monnaie et tous les contrefacteurs de papier-monnaie seront à sa demande punis de mort. Et donc tout à fait normal que Napoléon Bonaparte soit le héros des grands bourgeois. Il est plus exactement leur majordome, leur valet. Il est aberrant que ce soit un héros pour les petits. Sauf s'il s'imagine à sa place et qu'il s'imagine que sa place est enviable. Parce que tout ce que Nono va faire, soyons clairs, c'est pas pour la France. C'est pour les riches et même pour les ultra-riches. Pour eux, c'est pas un despote. C'est un César de comédie. Un Auguste au sens circassien du terme. L'autre truc dont Nono va se vanter, c'est de son code civil promulgué le 21 mars 1804 et qui définit les nouveaux droits et obligations. Initialement nommé Code Napoléon, il n'a de civil que le nom. Il est napoléonien jusqu'au trognon. C'est Code Nono. Il s'agit de remettre au pas un pays qui s'était un peu trop libéré lors des années révolutionnaires, mais pas au pas de la noblesse ou du clergé, au pas de la bourgeoisie. Le Code Nono remplace donc le droit de l'Ancien Régime par une sorte de méritocratie avec liberté d'entreprise et concurrence. Il met en place les conditions qui permettent d'exploiter la propriété foncière et d'utiliser les forces productives industrielles de la nation. La propriété, est alors considéré comme une institution directe de la nature. On est très 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 loin de Robespierre et de Saint-Just, hein, aux antipodes du droit à l'existence et aux moyens de la conserver. Le code Nono, c'est la sanctuarisation d'un ordre social au service des grands propriétaires. Et la famille en devient l'assise fondamentale. Le père dispose d'une tutelle absolue sur ses enfants et sa femme lui est subordonnée. Le mari domine sa femme et le maître domine ses serviteurs. En cas de litige avec l'employé, la parole du patron vaut preuve. Le maître est cru sur son affirmation. Merci Laquais. Passons au gros morceau, le rétablissement de l'esclavage. Alors on nous dit qu'il faut admirer Nono quand même, ce serait anachronique de le lui reprocher, il ne le voulait pas vraiment, il n'a pas eu le choix, gna gna gna. On connaît la chanson. Je préviens les fanboys que c'est mal barré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après l'abolition de l'esclavage pendant la Convention, l'empire colonial français commençait sérieusement à se fissurer. Mais l'abolition n'avait été effective qu'à Saint-Domingue, en Guyane et en Guadeloupe. Les colons des îles l'avaient empêché, de même que ceux de Saint-Louis du Sénégal. L'esclavage et la traite continuaient à s'y pratiquer illégalement. On a vu que le consulat avait été la superproduction de financiers et de fournisseurs de guerre qui, pour une bonne part, avaient fait leur fortune dans le commerce colonial et la traite. Alors certes, Nono leur avait déjà filé la Banque de France. Il n'y a pas besoin d'être médium pour deviner qu'ils allaient être bien chauds pour gagner un peu plus de gnargent. Surtout à partir de la rétrocession de la Louisiane par les Espagnols le 1er octobre 1800. Nono et ses employeurs voudraient prendre Saint-Domingue comme base d'opération pour atteindre la Louisiane et se faire encore plus de flouze. Pas seulement. Saint-Domingue alimentait également la France en sucre et la fournissait en coton. On voit l'enjeu. Mais il y a un problème. Et ce problème porte un nom. Il s'appelle Toussaint Louverture. Le général Toussaint Louverture, qui est cet homme? François-Dominique Toussaint, né esclave vers 1743 à Saint-Domingue. On ne sait pas de quand date son affranchissement, peut-être de 1776, peut-être un peu plus tôt. Après le déclenchement des révoltes d'esclaves en août 1791, Toussaint va mener une armée disciplinée de plus de 3000 hommes et venir à bout des forces d'occupation d'invasion anglaise, comme il va résister aux troupes françaises. Une fois lieutenant général, il ajoute à son nom le surnom de Louverture. Et comme l'explique Aimé Césaire dans son livre essentiel « Toussaint Louverture, la Révolution et le problème colonial », Toussaint est déjà conscient d'une chose, par-delà les hommes, c'est un système qu'il faut détruire. Toussaint Louverture rallie le camp républicain après l'abolition de l'esclavage par la Convention le 4 février 1794. Mais dès le directoire, évidemment, on commence à vouloir revoir de près cette histoire d'abolition. Et Boissy d'Anglas présente un grand rapport sur l'organisation coloniale dont l'unique but est bien de refuser aux colonies toute perspective d'autonomie. Que dit alors Boissy d'Anglas? Je cite Boissy d'Anglas. « Pour qu'un peuple puisse être indépendant, il faut qu'il sache se suffire à lui-même. Les Noirs recueillent presque sans culture les plus riches dons de la terre. Et loin d'aspirer à une liberté dont la conservation comme la conquête leur coûterait trop d'efforts, ils s'endorment au sein de l'opulence et des plaisirs qu'elle leur procure. Un tel peuple doit donc borner ses vœux à être sagement et paisiblement gouverné par des hommes humains et justes, ennemis de la tyrannie. » Et c'est avec la compréhension de ce que la France était en train de devenir, mais de ce que pendant un temps, celui de la Convention, celui de Robespierre et de Saint-Just, elle a pu promettre d'être, que Toussaint Louverture répond alors au directoire « Non, la main qui a rompu nos chaînes ne nous asservira pas à nouveau. La France ne reniera pas ses principes. Elle ne permettrait pas que sa morale sublime soit pervertie. Si pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, on faisait cela, cela, je vous le déclare, ce serait tenter l'impossible. Nous avons su affronter les dangers pour obtenir notre liberté. Nous saurons affronter la mort pour la maintenir. » Après quoi? Non seulement Toussaint Louverture prend le contrôle de l'île, mais il commence à rendre Saint-Domingue économiquement viable en toute indépendance. Il écrit le 6 novembre 1798 au président des États-Unis pour reprendre les relations commerciales. Elles reprennent en février. En mars, le gouvernement américain envoie un consul à Saint-Domingue et accepte de servir d'intermédiaire pour négocier un accord commercial avec les Anglais. Enfin, en mai 1801, Toussaint Louverture fait adopter une constitution autonomiste pour Saint-Domingue qu'il envoie en France pour ratification une fois accomplie. Oh ben mince, c'est mal barré pour les riches et leurs petits nonos, mais comment on va faire? Eh ben, on va tenter de les duper. On va faire croire aux braves noirs de Saint-Domingue. C'est comme ça qu'on leur parle, c'est si charmant. On va leur dire qu'on va maintenir l'abolition, mais on va envoyer quand même des commissaires pour restaurer l'autorité. Alors le laquais des riches envoie sur place 22 000 hommes, sous la direction d'un de ses beaufs, le général Leclerc. Les instructions de Nono sont claires, hein. Mentir, tuer et voler. Ne pas remettre en cause l'abolition dans un premier temps, mais s'emparer des généraux noirs, en particulier Toussaint Louverture, rallier ceux qu'on peut rallier, déporter les autres, désarmer tout le monde, enfin, pour finir, rétablir l'esclavage. Les troupes françaises sont trop nombreuses. Toussaint Louverture est contraint de se rendre le 6 mai 1802. À l'instant de monter sur le navire qui va le déporter en France où il sera incarcéré, il dit à son chef de division « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. » Toussaint Louverture est mis en isolement au fort de Joux, dans le Doubs. Plutôt que de l'envoyer en procès, on le laisse croupir en prison afin de le briser à force d'humiliation. Et c'est une fois Toussaint Louverture emprisonné que le laquais des riches peut se déshonorer et déshonorer avec lui pas la France, l'humanité, en rétablissant l'esclavage. Le festival du racisme décomplexé commence le 17 mai 1802. On entend le conseiller d'État Dupuis porter le projet de rétablissement de l'esclavage et de la traite. Je cite Dupuis. On sait comment les illusions de la liberté et de l'égalité ont été propagées sur ces contrées lointaines. Si dans un sujet aussi grave, il était permis d'employer les images, nous dirions que les accents d'une philanthropie faussement appliquée ont produit dans nos colonies l'effet du chant des sirènes. Puis, le 19 mai, c'est le membre du tribunat Pierre-Auguste Adé qui va jusqu'à prétendre que l'esclavage est nécessaire pour civiliser les peuples grossiers de l'Afrique. Je cite Adé. Passe encore si d'un geste philanthropique de la France, les Noirs devaient tirer quelque avantage. Hélas, il ne fallait point nourrir d'illusions à ce sujet. Et plutôt que de donner un exemple bon mais stérile, il valait mieux suivre le troupeau. Génial son image. Il vaut mieux suivre le troupeau. Enfin, le 20 mai 1802, Bonaparte décrète le rétablissement de l'esclavage et de la traite des Noirs, conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Les hommes de couleur qui possédaient la citoyenneté française depuis 1792 la perdent, leur entrée en France est interdite et Bonaparte donne aux mères l'ordre de ne plus célébrer de mariage mixte. Enfin, le 12 mars 1803, lors d'une séance du Conseil d'État, cette sinistre mère du Maine déclare à Truguet, je cite Bonaparte, Napoléon Bonaparte, « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-là est la bonne. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient même pas ce que c'était que la colonie, ce que c'était que la France ?» Napoléon ? Explosion !
Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur !
Ça leur a pas porté bonheur, cette saloperie. Tout d'abord, le laquais doit céder la Louisiane aux États-Unis en 1803. Et puis Saint-Domingue se libère quand même. Alors certes, Toussaint Louverture meurt en détention le 7 avril 1803. Mais en novembre de la même année, l'envoyé de Bonaparte, le sanguinaire Donatien de Rochambeau, aide de camp de feu son beau-frère, qui pratique les noyades de masse et la torture. Rochambeau est contraint de capituler. Et le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame la République d'Haïti, première république noire. Le laquais aura perdu rien moins que 60 000 hommes. Comme l'avait dit Toussaint Louverture à une précédente occasion, la justice du ciel est lente, mais elle est infaillible. Et tôt ou tard, elle frappe les méchants et les chasse comme la foudre. Avec un consulat pareil, le passage à l'Empire ne va pas être difficile. Bonaparte sera donc le premier empereur français à partir du 18 mai 1804 sous le nom de Napoléon Ier. L'Empire, donc. Mais le problème, c'est que l'Angleterre n'est pas prête à être annexée. Ah donc, en 1805, Ubu picrocole Napoléon, met au point un plan visant à l'envahir. Plan qui sombre lors de la bataille de Trafalgar, où la flotte franco-espagnole est détruite par celle de l'amiral Nelson. Une troisième coalition de pays européens se forme, pas contre la France, contre Napoléon le forcené. Et c'est une guerre soudaine qui apparaît à l'autre bout de l'Europe. Mais le forcené réussit à battre l'Autriche et la Russie le 2 décembre 1805 à Austerlitz. Puis, en 1806, nouvelle victoire à Iéna et en 1807 à Friedland. Pour cela, le forcené brise les règles de la guerre. Il ne s'agit plus de combattre à armée égale, mais de conscrire à la Danton des centaines de milliers de gosses innocents comme chair à canon pour gagner à tout prix et anéantir son ennemi. Le 27 juin 1813, Napoléon dira à Metternich, ambassadeur d'Autriche, « Un homme comme moi se fout de la mort d'un million d'hommes. » 1806, le forcené veut imposer un blocus continental pour détruire l'industrie et le commerce britannique. Comme le Portugal ne l'applique pas, il envahit le Portugal. 1807, le forcené impose son frère Joseph comme roi d'Espagne. Le peuple espagnol n'est pas d'accord. Très bien, guerre en Espagne pendant 6 ans. En 1812, l'Italie, l'Espagne, le Rhin, la Confédération suisse font partie de ces États vassaux. Et voilà, l'Empire est une drogue dure, il veut encore. Alors le forcené veut soumettre le Royaume-Uni. Et le tsar ne voit pas l'urgence. Napoléon décide donc d'envahir la Russie. Et il va tout perdre en 2 ans. Sur 600 000 gosses envoyés sur place, seuls quelques dizaines de milliers survivent. Le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'allient et Paris tombe le 31 mars. Les mecs qui l'ont placé au sommet de leur monde l'ont mauvaise, hein, les banquiers et leurs clients. Bah, le majordome a pris des initiatives pas fameuses. Il les a mis dans la panade. Nono doit abdiquer. On est le 6 avril 1814, exil à l'île d'Elbe.
Sure, they allowed him to keep the title of emperor, but without any power, it was meaningless.
C'est la première restauration. Celle-ci est une sorte de compromis entre l'ancien régime et les acquis de la Révolution. On donne le pouvoir à un frère de Louis XVI, Louis XVIII, mais celui-ci accepte une constitution, la charte de 1814, avec respect des droits individuels. Pas de retour en arrière concernant les biens nationaux, c'est la grande peur des nouveaux riches, et un pouvoir législatif divisé en 2 chambres. Une chambre des pairs, composée de nobles, et une chambre des députés, qui ont le droit de poser des questions au gouvernement. Précision. Les députés sont élus au suffrage censitaire. À minima 300 francs de contribution directe mensuelle pour les électeurs et 1000 francs pour les éligibles. Ce qui réduit les citoyens actifs à 100 000 électeurs et les éligibles à 15 000. Les très riches, donc.
Je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société.
Mais Nono revient et il n'est pas content. C'est la parenthèse dite des 100 jours. L'Angleterre, la Prusse et l'Autriche le considèrent comme hors la loi des nations. Bataille de Waterloo au sud de Bruxelles, défaite, deuxième abdication, définitive celle-ci, le 22 juin 1815, exil à Sainte-Hélène.
Une fois de plus, la Conquête décolle vers d'autres cieux.
Ok, c'est l'heure des comptes. Au moment du départ de Napoléon à Sainte-Hélène, l'Europe a perdu 6 millions d'hommes, dont 2 millions de Français. La France est économiquement ruinée, le territoire national ramené à une étendue moindre que sous Louis XVI, et son influence internationale réduite à néant. C'est ça le bilan du régime. Et comme écrira Simone Veil dans son texte « Quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme », Napoléon n'a pas inspiré au monde moins de terreur et d'horreur qu'Hitler, ni moins justement. On prétend que Napoléon a propagé, les armes à la main, les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française, mais ce qu'il a principalement propagé, c'est l'idée de l'État centralisé. L'État comme source unique d'autorité et objet exclusif de dévouement. L'État ainsi conçu, inventé pour ainsi dire par Richelieu, conduit à un point plus haut de perfection par Louis XIV. Napoléon a fini aigri. à se plaindre de son sort toute la journée devant son fanboy Las Cases qui écrit sous sa dictée le mémorial de Sainte-Hélène. Plus de 1000 pages d'autosatisfait mises en forme par un tiers avec un arrière-goût d'amertume. Pourtant, Sainte-Hélène, c'est typiquement ce que Louis Sarkozy aurait pu appeler un nouveau départ.
J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût.
Pas pour Nono, qui meurt d'une espèce de cancer de l'estomac ou peut-être un mélange d'hépatite et d'ulcère. Le 5 mai 1821, il avait 51 ans. On dit que ses derniers mots furent « tête armée ». Ok. Qu'est-ce qui suit ? Eh bien, il suit la seconde restauration, pendant laquelle deux petits Bourbons, limités par leur petite charte, vont tirer la France par la barbichette. Deux frères de Louis XVI, Louis XVIII, puis Charles X. Et il suit la publication du « Mémorial de Sainte-Hélène » de Las Cases en 1823, qui contribue à faire du petit Nono un mythe national. Je vous en cite un passage pour que vous voyez l'ambiance. Pour situer, c'est au début du livre. Et Las Cases évoque les modalités par lesquelles son dieu a pris le pouvoir et les conséquences de cette initiative. C'est vraiment long, et encore j'ai fait des coupes. Je cite Las Cases. Qu'un simple particulier, dont le nom 3 ans auparavant était inconnu à tous, et osait concevoir de saisir à lui seul les destinées de 30 millions d'hommes. Barras, Carnot, Fréron, Talleyrand, et puis surtout tous les fournisseurs de guerre véreux et crapules de l'époque, mais ok, si tu veux, le mec était seul, de les sauver des défaites du dehors et des dissensions du dedans, en se mettant toute l'Europe à dos, qu'il ait abandonné son armée, traversé les mers, au péril de sa liberté, de sa réputation.
Bah oui, il y avait de la concurrence pour le 18 brumaire, fallait aller vite.
Atteint le sol français. Voler dans la capitale.
Dose.
Qu'il y ait saisi en effet le timon, arrêté court une nation ivre de tous les excès.
Dose.
Qu'il l'ait replacé subitement dans les vrais sentiers de la raison et des principes.
Avec une arnaque bien connue.
Qu'il lui ait préparé dès cet instant un jet de puissance et de gloire inconnu jusque-là.
Calibage.
Que le tout se soit accompli sans qu'il en coûtât une larme ou une goutte de sang à personne.
Seulement 6 millions de morts.
C'est ce que l'on peut appeler une des plus gigantesques et des plus sublimes entreprises dont on n'ait jamais entendu parler.
Ou pas.
C'est ce qui saisira d'étonnement et d'admiration une postérité calme, sans passion. Mon bon Las Cases, c'est bien l'impression que tu nous donnes. Un homme calme et sans passion. Une bonne grosse postérité à toi tout seul. Si seulement tu étais le seul à marcher à cette fadaise. Tout le monde va marcher à cette fadaise. Un phénomène tout à fait fascinant commence à apparaître. Ce phénomène, c'est les hommes qui se prennent pour Napoléon. À l'hôpital de Charenton en 1818, on ne compte rien moins que 5 nouveaux arrivants qui disent être Napoléon.
Je suis rentré 5h au soir de Marengo.
Alors que l'original n'est pas encore mort. Et en 1840, l'année du retour des cendres de Napoléon à Paris, on note l'entrée à Bicêtre de 14 nouveaux Napoléons. Cette histoire ne va plus cesser. Les hommes vont se prendre pour Napoléon. C'est même devenu un cliché du dessin d'humour, le fou qui se prend pour Napoléon. Ce qui fera écrire à Laure Murat « La figure messianique de Bonaparte s'accompagne dans la société d'un souci de gloire individuelle sans précédent. À travers son image de conquérant, le pouvoir devient a priori accessible à quiconque et désireux de fonder une nouvelle dynastie et de changer le monde. » Napoléon devient donc le symbole de l'homme parti de zéro et qui a réussi. Et pendant longtemps, perdu dans un siècle qui ne récompense que les ambitieux. Les écrivains du 19e siècle vont napoléoniser comme des bêtes, même les meilleurs. On appellera cette tendance de bien des noms, mais le principal sera sans doute le romantisme. Le romantisme, opération complexe. Le romantisme n'est pas cantonné à la France. C'est un phénomène qui se déploie simultanément dans plusieurs pays européens. Il commence en Allemagne dès 1798 avec les frères Schlegel et surtout l'immense poète Novalis. Et les romantiques vont être inspirés à la fois par la Révolution française et par Napoléon. C'est qu'il s'agit de gens jeunes qui transposent l'idéal révolutionnaire dans leur discipline. Parmi les grandes influences des auteurs romantiques, il y a le théâtre de Shakespeare qui a été ignoré et même méprisé en France au XVIIe et XVIIIe siècle. et dont Victor Hugo fera à juste titre la sommité poétique des temps modernes. Disons-le hardiment, écrit Hugo en 1827 dans la préface de Cromwell, préface qui est un peu le manifeste du drame romantique. Rejetant les règles du théâtre classique et mêlant les registres du sublime et du grotesque, du recherché et du vulgaire. Je reprends Hugo. Disons-le hardiment. Le temps en est venu. Il serait étrange qu'à cette époque, la liberté, comme la lumière, pénétrât partout, excepté dans ce qu'il y a de plus naïvement libre au monde, les choses de la pensée. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l'art. Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. L'enjeu du romantisme, donc, est de faire émerger des œuvres d'art d'une très grande liberté, mais qui, à l'instar de Bonaparte, s'imposent. Et leur premier combat pour s'imposer est bien sûr la fameuse bataille d'Hernani, lors de la première de la pièce de Victor Hugo, le 25 février 1830, durant laquelle les jeunes romantiques se chamailleront contre les partisans d'un théâtre classique. Vous me trouvez forceur de dire que ce mouvement est inspiré par Bonaparte ? Ouvrons le livre de souvenirs d'un de ses principaux protagonistes, « Histoire du romantisme » de Théophile Gautier, et lisons simplement le premier paragraphe. De ceux qui, répondant au cri d'Hernani, s'engagèrent à sa suite dans l'âpre montagne du romantisme et en défendirent si vaillamment les effilés contre les attaques des classiques. Il ne survit qu'un petit nombre de vétérans, disparaissant chaque jour comme les médaillés de Sainte-Hélène. Le chef rayonnant reste toujours debout sur sa gloire, mais le souvenir des soldats obscurs va bientôt se perdre, et c'est un devoir pour ceux qui ont fait partie de la grande armée littéraire d'en raconter les exploits oubliés. C'est beaucoup mieux écrit que Las Cases. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux écrit. Mais ça reste très militaire. Et si on n'avait pas bien compris, Gautier en remet une couche quand, quelques pages plus loin, il évoque leur chef rayonnant, le général Victor Hugo. Dans l'armée romantique comme dans l'armée d'Italie, tout le monde était jeune. Les soldats, pour la plupart, n'avaient pas atteint leur majorité et le plus vieux de la bande était le général en chef, âgé de 28 ans. C'était l'âge de Bonaparte et de Victor Hugo. À cette date. Alors certes, l'art ne s'impose pas par la violence coercitive, et le romantisme va produire des chefs-d'œuvre. Mais dans l'enracinement, Simone Veil se montrera très critique. Je cite Simone Veil. « Les romantiques furent des enfants qui s'ennuyaient parce qu'il n'y avait plus devant eux la perspective d'une ascension sociale illimitée. Ils cherchèrent la gloire littéraire comme produit de remplacement. » Et dans ses quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme, elle demandera également « Que penser de tant de vers de Hugo à l'éloge des conquêtes françaises où l'habitude ne nous laisse plus voir qu'un exercice littéraire ?»« Pardon Hugo, mais c'est vrai, tu as napoléonisé plus qu'à ton tour. » Je cite Victor Hugo. « Toujours lui, lui partout, ou brûlant ou glacé, son image sans cesse ébranle ma pensée. Il verse à mon esprit le souffle créateur. Je tremble et dans ma bouche abondent les paroles quand son nom gigantesque, entouré d'auréoles, se dresse dans mon vers de toute sa hauteur. Histoire, poésie, il joint du pied vos cimes. Éperdu, je ne puis dans ces mondes sublimes remuer rien de grand sans toucher à son nom. Oui, quand tu m'apparais pour le culte ou le blâme, les chants volent pressés sur mes lèvres de flamme. Napoléon !» Victor Hugo se rattrapera et fera entre autres avec Les Misérables, Les Travailleurs de la mer ou L'Homme qui rit des monuments romanesques, encore plus poétiques que ses poèmes, à la gloire des pauvres, des solitaires et des frics. On t'aime quand même, Victor Hugo. On t'aime d'amour. Mais reste que pendant longtemps, on va faire de Bonaparte un fils de la Révolution, qui se serait opposé aux puissantes dynasties de la vieille Europe et une espèce de self-made man qui ne devrait son succès qu'à lui-même. Presque un contestataire de l'ordre établi. Presque un rocker. Cette blague. Dans cette salade, il s'agit toujours de faire du cherry picking dans l'histoire du gars. Mais tout de même, comment peut-on passer aux pertes et profits le rétablissement de l'esclavage? Le règne de la censure et de la police? Ou les 6 millions de morts? Bonaparte, fils de la Révolution. C'est le poncif avec lequel Cavanna, pourtant un immense fan de Victor Hugo, s'amusera au début des aventures de Napoléon, chef-d'œuvre d'esprit harakiri. Coucou Virginie. Le jeune Napoléon Bonaparte s'était rallié avec enthousiasme aux idées nouvelles. Sur toutes les gravures de l'époque représentant la prise de la Bastille, on le reconnaît très bien, tout au fond, caché derrière les autres et mangeant des gaufres. Peut-être faut-il d'abord voir dans cette napoléomanie une réaction à la gueule de bois de la Restauration. Le retour des petits Bourbons, le dégoût de la Révolution confisquée. Et aussi et surtout, une confusion sur les origines de ce grand retour en arrière. Confusion nourrie à la fois par la légende noire de Robespierre et par la légende dorée de Napoléon. De saletés qui nous ont trompés et qui nous trompent encore aujourd'hui. Parce que pendant que nos grands napoléomanes napoléonisent, les petits restaurateurs restaurent. Ils sont partagés entre le respect de la charte qu'on leur a imposée et leur désir de refaire une monarchie absolue, le truc de leurs ancêtres. Alors ils retapent en douce leur aristocratie comme une vieille baraque, quand on regarde ailleurs. Surtout Charles X. Il décide même en 1825 de rembourser les émigrés qui avaient perdu leurs biens considérés ensuite comme biens nationaux. La loi du milliard aux émigrés. Les problèmes s'accentuent en 1828. Bien que les grands bourgeois libéraux soient majoritaires à la Chambre des députés, Charles X décide, un peu à la Macron, de nommer un premier ministre conservateur à sa botte en 1828. Les libéraux sont pas contents. La presse non plus, ça râle un peu. Charles X dissout la Chambre des députés et organise de nouvelles élections. Mais rebelote, les libéraux sont à nouveau majoritaires. Punaise. Alors Charles X va faire un coup de force à la fois spectaculaire et complètement idiot. La publication dans le Moniteur universel, qui est un peu le journal officiel, des ordonnances le 26 juillet 1830. À quoi sert une ordonnance ? À ordonner.
Respect my daughter.
Les ordonnances de Charles X lui donnent les pleins pouvoirs. Il supprime la liberté de la presse et il dissout une fois de plus la Chambre des députés alors qu'elle vient tout juste d'être élue. Dès le lendemain et pendant 3 jours, le peuple va refaire une révolution. Ce seront les Trois Glorieuses, célébrées par le tableau de Delacroix avec la liberté qui a tombé la chemise. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, les manifestants érigent des barricades, dépavent les rues et distribuent les pavés aux habitants qui les lancent au milieu des casseroles et des pots de chambre sur les soldats du haut de leurs fenêtres. Charles X demande à l'armée de tirer sur la foule. La foule pille le musée de l'artillerie et se défend avec des armures, des casques et des hallebardes de toutes les époques mélangées. Ils sont 8000 face à 12000 soldats. Beaucoup d'ouvriers artisans, surtout des ouvriers typographes qui ont perdu leur travail avec la suppression de la liberté de la presse, mais surtout ils ont le soutien de toute la population et les libéraux ne vont pas tarder à s'associer à eux. La colonne de la Bastille gardera la trace de 504 insurgés tués. C'est le peuple, une fois de plus, qui a défait le régime monarchique. Mais c'est un banquier, Jacques Lafitte, qui va s'opposer aux revendications des républicains et imposer, pour la suite, Louis-Philippe. Et là qui va là, Égalité 2. Alors qu'il conduit Égalité 2 en triomphe à l'Hôtel de Ville, Lafitte laisse échapper ce mot. Désormais, ce sera le règne des banquiers.
Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute.
Oups. Alors certes, les Trois Glorieuses vont briser la prétention de la noblesse à diriger le pays comme au bon vieux temps. Mais elles ne vont que davantage laisser le champ libre à la grande bourgeoisie. Louis-Philippe n'est pas roi de France, seulement roi des Français. Mais s'il révise la charte constitutionnelle en limitant davantage ses pouvoirs et en baissant le coût du suffrage censitaire, il ne le baisse que de 300 à 200 francs. Ce qui augmente le corps électoral de 100 000 à 240 000 électeurs pour une population d'environ 33 millions d'habitants. Autour de 2% d'hommes en âge d'aller voter. Ce ne sera donc même pas toute la bourgeoisie qui va régner. Seulement une petite portion de celle-ci. Les banquiers, les propriétaires des mines et les magnats de l'industrie des chemins de fer. Et niveau corruption, ça va aller assez loin. Une partie des ministres sera intéressée comme actionnaire dans les travaux de voies ferrées. On va voir le passage de la Restauration à la Monarchie de Juillet décrit dans la Comédie humaine de Balzac. Un labyrinthe de romans, tous plus géniaux les uns que les autres, écrits de 1829 à 1848 et reliés par des personnages qui reviennent d'un récit à l'autre. avec un pôle royaliste situé au Faubourg Saint-Germain à Paris et un pôle bancaire à la Chaussée-d'Antin. Et avec tous ces jeunes gens qui viennent de province, montent à Paris et veulent réussir, comme des Napoléons des affaires, des Napoléons des lettres, des Napoléons de la politique. Rastignac, dans le Père Goriot, qui déclare en regardant Paris « À nous deux maintenant !» Rubempré, dans Illusion perdue, qui dit « Voilà donc mon royaume, voilà le monde que je dois dompter !» Qui donc domine, en ce pays sans auteur, sans croyance, sans aucun sentiment, mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs, écrit Balzac dans les premières pages de La fille aux yeux d'or. Qui domine ? L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. L'or et le plaisir, soit les antagonismes de classe et les pulsions. Et ceux qui tirent leurs épingles du jeu, comme Rastignac qui devient ministre, comme ceux qui n'y arrivent pas, comme Rubempré qui se suicide en prison, tous ont exactement les mêmes motivations. Ils sont pris à l'intérieur des serpenteaux de l'or et du plaisir. Ils veulent réussir, mais pour des raisons qui tiennent moins à leur subjectivité qu'aux conditions objectives de leur existence. Ils ne se retrouvent pas impliqués dans les mêmes circuits du labyrinthe. C'est pourquoi Victor Hugo a pu dire que Balzac, malgré ses convictions monarchistes et catholiques, était un écrivain révolutionnaire. C'est pourquoi Karl Marx a pu le citer dans Le Capital. Friedrich Engels déclarait qu'il a plus appris dans Balzac sur l'économie et la politique qu'en lisant les économistes et les historiens. George Lukács, enfin, écrire que la tragique décomposition des idéaux bourgeois sous la poussée de leur propre base économique capitaliste est rapportée pour la première fois en totalité dans les Illusions perdues. Oui, ce ne sont pas les décisions individuelles qui ont de l'impact sur les vies des personnages de la comédie humaine. Ce sont les mutations de la société elle-même. Le règne d'égalité 2, la monarchie de Juillet, va durer 18 ans. 18 ans de sentiments d'injustice et d'impuissance politique, avec régulièrement des soulèvements réprimés dans le sang. Les révoltes des Canuts à Lyon, en 1831 et 1834. Le 2 juin 1832, des barricades et des combats meurtriers dans le quartier Saint-Merry. Combats présents dans Les Misérables de Victor Hugo. Et à la suite de nouvelles barricades, le 14 avril 1834, le massacre de la rue Transnonain. Rue Transnonain, une rue située à l'époque entre la rue Michel-le-Comte et la rue Homère. Massacre ordonné par Adolphe Thiers, ministre intérieur, qui dit alors au général Bugeaud et à sa troupe « Il faut tout tuer. Amis, pas de quartier, soyez impitoyables. » Deux semaines après cette boucherie, et là qui va là, égalité 2. Oui, c'est Louis-Philippe qui inaugure l'exposition de l'industrie Place de la Concorde et dans son discours déclare que les progrès de l'industrie aboutiront nécessairement à une baisse générale des prix dont toute la population sera bénéficiaire. Une espèce de théorie de ruissellement avant l'heure. Et ça, alors qu'à Paris, dans la plupart des grandes villes, l'écart est désormais de 1 à 10 000 entre les fortunes déclarées. 1% des habitants détient 30% de la fortune globale et 68% des Parisiens décèdent sans aucun bien. C'est le moment où apparaît la photographie. Et la photographie va changer beaucoup de choses. La photographie est une invention scientifique et une nouvelle discipline artistique, mais c'est aussi un outil de fichage policier. En 1805, l'administration de Napoléon avait rendu obligatoire la numérotation des immeubles dans les grandes villes. C'était un apport indéniable pour les opérations de police. À cela s'ajoutera désormais la photographie, qui permettra pour la première fois de fixer sans ambiguïté les traits d'un suspect. Pendant ce temps, 4000 fabriques, forges et usines apparaissent. C'est pas le ruissellement annoncé par égalité 2. Les ouvriers sont payés 2 francs par jour, juste assez pour ne pas mourir de faim. Dans certaines villes, comme Lille, ils sont logés dans des caves souterraines et étroites, où l'air n'est jamais renouvelé. Une autre des conséquences de cette industrialisation dont Louis-Philippe nous vantait les merveilles à venir, c'est le travail des enfants. Conséquence directe de la misère et d'une mécanisation des tâches permettant le recrutement d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Dans un rapport de 1832, on peut lire. Il reste 16 à 17 heures debout chaque jour, dont 13 au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ou d'attitude. Ce n'est pas là un travail, c'est une torture. Et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achèvent d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Ils sont maigres, chétifs, ridés. Leur ventre est gros et leurs membres émaciés. Leur colonne vertébrale est courbée ou leurs jambes sont torses. Leur cou est couturé ou garni de glandes. Leurs doigts sont ulcérés et leurs os gonflés ou ramollis. Enfin, ces petits malheureux sont tourmentés, dévorés par les insectes. Entre 1840 et 1848, on compte plus de 140 000 enfants travaillant en industrie. Et non seulement les conditions de travail des prolétaires deviennent plus inhumaines à mesure que l'industrie se développe, mais le chômage augmente. En 1839, on recense 150 000 chômeurs à Paris. Avec ce chômage qui s'ajoute à l'exploitation, les pauvres sont écrasés. Et ils se sentent impuissants à se révolter. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que des idées nouvelles n'ont cessé de circuler ces dernières décennies. Des idées républicaines, mais aussi des idées socialistes, des idées anarchistes, des idées communistes. On voit apparaître une personne extraordinaire. Flora Tristan, une franco-péruvienne née en 1803. Elle a fui un mariage arrangé avec un homme qui l'a batté, et le divorce étant interdit depuis la Restauration, elle vit cachée. Elle voyage et dénonce successivement le système de l'esclavage dans les pérégrinations de la paria et le travail en usine dans les promenades dans Londres. Elle lance l'idée de la solidarité des travailleurs et de l'union ouvrière. Je cite Flora Tristan. La classe ouvrière est un tout et elle doit se faire connaître comme un tout. Elle a même le projet d'une internationale ouvrière, d'où le slogan « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Slogan que Marx et Engels n'ont fait que reprendre à la fin du manifeste du Parti communiste, 4 ans après sa mort et sans la citer. Eh ben alors les mecs, pas gênés, hein ? Et Flora Tristan associe à ce combat une lutte pour l'émancipation des femmes. L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. Enfin, aux antipodes d'Hegel, qui nomme Napoléon l'âme du monde et considère que le grand homme, à l'instar de Jules César, peut écraser maintes fleurs innocentes parce qu'il réalise l'histoire. Super. Flora Tristan écrit quelques pages sur Napoléon où les choses sont enfin dites avec lucidité, sans le délire habituel. Je cite Flora Tristan. Napoléon est le souverain qui a porté le plus loin la puissance de la force sur les peuples qu'il dominait. Mais que nous a-t-il laissé de durable ? Quelle est celle de ses institutions qui a amélioré le sort de l'humanité ? Il a substitué ses préjugés, ses instincts de tyrannie aux principes libéraux de la législation républicaine. Sous son règne, la censure était partout. Il traitait les Français comme des enfants auxquels on fait apprendre ce qu'ils doivent dire et penser. Il a agité le sol européen jusque dans ses fondements. Il n'y a pas déposé une semence de liberté. C'était pour lui une nécessité, une condition d'existence, car la puissance qu'il exerçait aurait bientôt perdu toute autorité morale si on avait pu, en quelque lieu ce fût, en discuter le droit. Et l'esprit de révolte se serait propagé de proche en proche. Flora Tristan meurt le 14 novembre 1844. Son dernier ouvrage, complété d'après ses notes et publié en 1846, c'est « L'émancipation de la femme ou le testament de la paria ». Elle y prend des accents messianiques et mystiques. Un homme s'est dévoué jusqu'à la mort. Le testament qu'il a laissé a été l'évangile. Je veux aimer comme il a aimé et mourir comme il est mort. À moi aussi, il me faut un calvaire pour y proclamer, en mourant, l'émancipation de la femme. Et elle lance une phrase qui pourrait bien être, après 2 siècles de visionnaires déclarés déments, le slogan antivalidiste qu'il nous faudrait aujourd'hui. Je serai folle s'il le faut, ce sont les fous qui ont sauvé le monde. Toutes ces idées sociales nouvelles se répandent à travers des banquets. Banquets qui sont les principaux lieux de politisation de la société. Ça ne plaît pas à Égalité 2, qui interdit un banquet qui doit se tenir à Paris le 22 février 1848. Pourtant, ce banquet, c'était pas le sommet de la ferveur révolutionnaire. C'était juste un banquet en faveur d'une réforme électorale. Les intéressés se rassemblent quand même devant la Madeleine et font un cortège qui va de la Concorde aux Champs-Élysées. les cafés soutiennent les insurgés, et même la garde nationale dépose ses fusils et fraternise avec la foule. Et là, en seulement 2 jours, c'est qui s'en va ? Égalité 2. Oui, en seulement 2 jours, Louis-Philippe démissionne. Un gouvernement provisoire est constitué. Gouvernement de compromis, avec un peu de tout, même des socialistes, et même un ouvrier, Albert, de son vrai nom Alexandre Martin. Pas mal de bonnes choses vont être décrétées par ce gouvernement provisoire. On rétablit l'abolition de l'esclavage, c'est pas trop tôt. Et on passe au suffrage universel, certes toujours masculin. Mais ce que le peuple demande, là, maintenant, tout de suite, c'est du travail. Et du travail, il n'y en a pas. Alors on va créer des ateliers, financés par l'État, afin de résorber le chômage. On a longtemps dit qu'il s'agissait de travaux de terrassement, monotones et inutiles. Il est possible que cette image négative ait été surtout construite par la propagande conservatrice. Et puis on a exagéré leurs coûts pour révolter les paysans des campagnes en produisant de faux rapports alarmistes alors qu'ils ne représentaient qu'1% du budget du gouvernement. Comme ce que le gouvernement cherche, c'est à se faire accepter par la bourgeoisie. Plutôt que de faire douiller les riches avec un impôt progressif, on fait douiller tout le monde en demandant une taxe additionnelle de 45 centimes sur les impôts directs. Les paysans sont en colère contre ce gouvernement à qui ils reprochent de financer des ateliers pour les chômeurs avec l'impôt des 45 centimes. Vous me suivez ? En avril, élection de l'Assemblée constituante. Les paysans votent et ils votent pour les conservateurs. Il y a malgré tout encore une majorité de républicains libéraux à l'Assemblée. Mais en juin, lors des élections législatives complémentaires, les conservateurs continuent à progresser. Alors, sous la pression des conservateurs, qui disent qu'il est scandaleux de payer les ouvriers à ne rien faire, les libéraux décident de liquider les ateliers le 21 juin. La honte. Les ouvriers qui se retrouvent sans emploi répondent par une insurrection. Et les premières barricades sont dressées le 23 juin. Cette insurrection va durer à nouveau 3 jours. Mais cette fois-ci, pas de fraternisation. Et la répression sera inouïe. Il n'a jamais été possible de donner une estimation exacte de l'ampleur du massacre. Aujourd'hui, on penche pour 12 000 morts du côté des insurgés en 3 jours, contre 1 500 dans les forces de l'ordre. Plus 25 000 arrestations, 11 000 condamnations à prison, 1 500 fusillés sans jugement et 4 000 prisonniers déportés en Algérie. Du jamais vu jusque-là. Il n'y a même plus l'excuse de la noblesse. Ce sont des républicains qui ont tué d'autres républicains et avec une violence hors du commun. Comme l'expliquera Dolph Heller dans son livre « Le spleen contre l'oubli », cet événement hors du commun va faire l'objet d'un refoulement collectif, lui aussi hors du commun. Et ce refoulement va devenir un motif de la littérature française. En particulier chez le poète Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. Baudelaire, avant d'être, selon ses propres dires, physiquement dépolitiqué par le coup d'État de Napoléon III, Baudelaire avait été un disciple de Robespierre. Il avait dirigé et rédigé avec 2 copains une petite revue nommée Le Salut Public. Et il avait participé à cette insurrection de juin. Et ses poèmes, d'une sublime densité visuelle et musicale, ne garderont les traces de ce traumatisme qu'à l'état d'indice. Je cite Baudelaire. « Moi, mon âme est fêlée. Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid de ses nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. » Le seul qui refuse de refouler, c'est un ancien ami de Baudelaire, l'étrange Louis Ménard, un historien et érudit mystique, critique d'art, poète et alchimiste à ses heures. Et Louis Ménard va documenter de manière systématique les horreurs de juin et les décrire minutieusement dans un livre essentiel, Prologue d'une révolution, publié début 1849. Je cite Louis Ménard. « C'est dans le marais et dans les quartiers Popincourt et du Temple que se livrèrent les combats les plus sanglants. C'est aussi là qu'on vit le plus de générosité dans le Parti du Peuple et d'acharnement parmi les vainqueurs. Deux prisonniers, un soldat de ligne et un tambour, étant tombés entre leurs mains, leur dirent « Fusillez-nous ! » Les démocrates ne fusillent personne, leur fut-il répondu. Lorsque la mairie fut reprise, tous les ouvriers qui y étaient furent fusillés. Les cadavres furent amoncelés dans la rue jusqu'à la hauteur d'une barricade. Comme les autres quartiers, le faubourg Saint-Antoine fut après le combat le théâtre de perquisitions, d'arrestations sans nombre, d'exécutions et même de pillages. Plusieurs femmes furent violées, trois furent précipitées d'une fenêtre rue de Charenton. Après ces horreurs, en décembre 1848, premières élections présidentielles. On va élire pour la première fois, au suffrage universel masculin, un président qui siégera à l'Élysée et qui dirigera le pays pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Lol. Et le gagnant sera un candidat qu'on n'attendait pas, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de son oncle, qui va être élu avec 74,2% des voix. Toutes les ressources de la réclame furent employées pour prôner cette candidature, écrit quasiment en direct Louis Ménard. 7 journaux impérialistes fonctionnèrent à la fois. Les royalistes voyaient avec plaisir ces intrigues qui leur préparaient les voies, et une partie du peuple, accusant la République des fautes de ceux qui l'exploitaient à leur profit, se groupait autour d'un nom qui restera populaire tant que l'éducation morale et politique du peuple ne sera pas faite. Et comme dira de son côté son ex-pote dépolitiqué Baudelaire, « En somme, devant l'histoire et devant le peuple français, la grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le premier venu peut, en s'emparant du télégraphe et de l'imprimerie nationale, gouverner une grande nation. » Les Bourbons étaient les champions de la grande propriété foncière et Louis-Philippe était celui de la banque. Louis-Napoléon Bonaparte va se donner comme le candidat des paysans propriétaires. Il se prétend même sensible à la question sociale et publie en 1844 une espèce de livre, « L'extinction du paupérisme ». Mais une de ses premières décisions une fois élue est le maintien de l'impôt sur le sel dont le gouvernement provisoire avait décrété l'abolition. Un crachat à la gueule de ses électeurs. Ben ouais. Comme sur un dessin de Reiser, les Français ont voté comme des cons. Cette humiliation couronnée de gloire rendra Baudelaire amer et misanthrope. Je cite encore Baudelaire. « Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s'accomplir sans la permission du peuple, et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. Les dictateurs sont les domestiques du peuple, rien de plus, un foutu rôle d'ailleurs, et la gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise nationale. » Question complexe, et qui nous renvoie à la distinction établie jadis par Rousseau entre l'intérêt général et la somme des intérêts privés, et des conditions nécessaires pour une population afin de choisir cet intérêt général contre cette somme des intérêts privés. Question complexe, mais surtout compliquée par l'advenue du télégraphe et de l'imprimerie nationale, en gros, par l'advenue des médias. Et non seulement Louis-Napoléon Bonaparte écrase tout le monde aux élections, mais insatisfait de n'avoir que 4 ans pour sa gueule, il s'offre un coup d'État le 2 décembre 1851. Le pire, c'est que ce coup d'État était prévu depuis une paye. Louis-Napoléon Bonaparte avait fait des tentatives de coup d'État ratées en 1836 et en 1840. Il avait financé avec l'héritage de maman des brochures de propagande pour le bonapartisme, le gouvernement d'un seul par la volonté de tous. Il l'avait théorisé, si on peut appeler cette bouillie une théorie. Je cite Louis-Napoléon Bonaparte. « L'idée napoléonienne, écrit Louis-Napoléon Bonaparte, a combattu pour exister. Elle a triomphé pour persuader. Elle a succombé pour renaître de ses cendres, imitant en cela un exemple divin. La nature de l'Empire fut de consolider un trône sur les principes de la Révolution, de cicatriser toutes les plaies de la France, de régénérer les peuples, ses passions, l'amour de la patrie, de la gloire, de l'honneur. » Pitié ! Quelques semaines après le coup d'État, les 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite est organisé. 7 400 000 oui contre 640 000 non. Plus de 90% de convaincus. Ça donne envie de crever. Le neveu de Nono est sordide et ridicule, mais il a enfariné tout le monde. Tout ça parce qu'il a compris la puissance du personal branding. Coucou Ilyes, coucou Moufette.
Who here is actively building their personal brand?
Each and every one of us is a personal brand, like it or not.
Et le personal branding de Louis-Napoléon Bonaparte passera entre autres par un livre très Louis Sarkozy sur Jules César et présentant évidemment le césarisme comme la condition nécessaire du bonheur des peuples.
Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût.
Je cite Louis-Napoléon Sarkozy Bonaparte tout en honorant la mémoire de Vercingétorix. Il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite. Admirons l'amour sincère de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays, mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation, institution, mœurs, langue, tout nous vient de la conquête. L'enfer ! Et l'enfer des discours de Napoléon III aux Algériens, où il leur dit que vaincus, ils sont semblables aux Gaulois, promis à ressusciter dans une civilisation nouvelle et plus vaste.
Oh merde.
Oh putain, il faut que je me calme. Celui qui l'aura d'abord soutenu, puis attaqué, enfin qui se sera exilé jusqu'à la fin de son règne, c'est Victor Hugo. Aujourd'hui, Napoléon III est moins connu que le pamphlet que Hugo lui a consacré, Napoléon le Petit. Je cite Victor Hugo. Avant le 2 décembre, les chefs de la droite disaient volontiers de Louis Bonaparte « C'est un idiot. » Il se trompait. Certes, ce cerveau est trouble. Ce cerveau a des lacunes. Mais on peut y déchiffrer par endroits plusieurs pensées de suite et suffisamment enchaînées. C'est un livre où il y a des pages arrachées. Et Napoléon le Petit contient, entre autres, des passages très intéressants sur la transformation des mots par le nouveau pouvoir. Je cite Victor Hugo. Le crime de M. Bonaparte n'est pas crime, il s'appelle nécessité. Le guet-apens de M. Bonaparte n'est pas guet-apens, il s'appelle défense de l'ordre. Les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils s'appellent mesures d'État. Les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils s'appellent salut public. Les complices de M. Bonaparte ne sont pas des malfaiteurs, ils s'appellent magistrats, sénateurs et conseillers d'État. Les adversaires de M. Bonaparte ne sont pas les soldats de la loi et du droit. Ils s'appellent Jacques, démagogue et partageux. Et ce faquin dit à la France qu'il l'a sauvé. Et de qui ? D'elle-même.
Comme on disait au 18e siècle, un faquin.
Un faquin.
Un faquin, oui. Un pauvre garçon.
Lorsque Charles Péguy rééditera « Prologue d'une révolution » de Louis Ménard, au début du 20e siècle, le 28 juin 1904, il parlera du livre comme d'un monument, de la perpétuelle utilisation du peuple par la bourgeoisie, de la perpétuelle déception du peuple par la bourgeoisie, du perpétuel massacre du peuple par la bourgeoisie. C'est que la guerre qui a suivi Thermidor et qui s'est déroulée jusqu'au Second Empire était très simple, mais si simple qu'on a cessé de la compliquer par des artifices. Babeuf l'avait vu. Babeuf avait tout compris. C'était la guerre des riches contre les pauvres. Maintenant, pour la rendre moins simple, la grande bourgeoisie a trouvé une arme formidable qui sera utilisée à son profit par Napoléon III et par tous ses successeurs ayant accès, comme dit Baudelaire, au télégraphe et à l'imprimerie, c'est-à-dire aux médias. Cette arme, c'est la propagande qui s'associe au roman national. Ah donc, le mythe de l'homme providentiel qui va nous sauver permet à la domination marchande d'être votée et même d'être plébiscitée. En faisant ainsi rêver la population à une servitude à venir dans laquelle elle trouverait son salut et son repos. Ce seront ces couvertures de magazines, toujours les mêmes, avec toujours le même slogan. Et si c'était lui ? Napoléon III était le premier, et si c'était lui.
And therefore you have to control what people think.
the standard way to do this is the resort to what in more honest days used to be called propaganda, manufacture of consent, creation of necessary illusions, various ways of either marginalizing the general public or reducing them to apathy in some fashion.
À partir de ce moment, ça n'allait plus s'arrêter. De Napoléon à Macron. À partir de ce moment, c'était fini pour les conditions nécessaires à la démocratie. Fini, fini, fini. Je pense que vous l'avez compris, Napoléon Bonaparte est le personnage de l'histoire de France qui m'intéresse le moins. C'était même au point où je pensais que j'allais pas faire d'épisode sur lui dont l'Empire n'a jamais pris fin. Mais ce serait aller un peu loin. C'est sur l'Empire. S'il y a quelqu'un qui a fait un empire à partir de la France, c'est Napoléon. Donc on pouvait pas vraiment y échapper. La question c'était comment faire pour ne pas en faire trop sur ce gars random. Pourquoi pour moi c'est un gars random ? C'est un bon militaire, il est bon en maths, c'est une sorte de super ingénieur, quoi. Il va faire de la guerre quelque chose de technique. Là, si t'as une armée d'un côté, il faut en avoir une armée plus grosse en face. Là, tu gagneras. Le but, c'est de gagner. En fait, c'est pas Napoléon qui m'intéressait, c'est pourquoi il y a Napoléon, c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, Napoléon en soi, finalement, ça aurait pu être n'importe qui. Ce qui est important, c'est pour faire marcher cette espèce de parodie de démocratie, qui finalement s'est transformée en empire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'après Thermidor, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis fin au rêve de république sociale de Robespierre, Saint-Just et Couthon, le directoire avait deux problèmes. Un problème, c'était les nobles qui voulaient récupérer leurs biens, qui étaient devenus biens nationaux, et de l'autre côté, les désirs de république sociale, à laquelle ils voulaient, il n'y avait pas question de les donner. Eux, ils voulaient tout laisser aux plus riches. Et donc, il a fallu trouver un succès d'année de régime, une pseudo-démocratie qui avait vite se transformer en despotisme et qui a été le consulat. Ce qui est intéressant, c'est l'idée, en fait, qu'il a fallu trouver une mythologie pour faire passer la pilule, pour en gros mettre fin à un rêve de liberté et d'émancipation, il a fallu inventer un mythe débile qui a été ce mythe de l'homme parti de nulle part et qui est arrivé au sommet du monde. Et ce mythe, il a tenu longtemps. Pendant un demi-siècle, les gens vont croire à Napoléon comme mythe. Mais pour eux-mêmes d'abord, où ils vont croire qu'ils sont Napoléon, c'est les types qui vont à Charenton ou à Bicêtre, c'est des hommes qui se prennent pour Napoléon, ça va devenir un cliché. C'est-à-dire qu'on va en voir jusque dans les dessins d'humour, etc. C'est vraiment un cliché, on va dans les films, on voit un asile, il y a toujours un mec qui se prend pour Napoléon. Dans tous les asiles, dans tous les films, dans toutes les bandes dessinées. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment eu des gens qui se sont pris pour Napoléon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était l'idée que t'étais parti de rien et que t'étais arrivé tout en haut. Mais c'est une idée. C'est pas vrai sur le fond. C'est ça le truc, c'est que c'est un hocher, c'est des fadaises, et c'est un très mauvais mythe. C'est un mythe triste, c'est un récit triste. Et pendant un moment, même les génies vont marcher à ce truc-là, parce que ça va être le seul modèle. Pendant un bon moment, le seul modèle disponible, puisqu'il n'y a plus de projet collectif. C'est la jungle, mais un homme tout seul, eh ben, il peut se retrouver le chef. Et c'est sur ce mythe débile qu'on va essayer de nous faire continuer à tenir aujourd'hui. Ou alors, eh ben, c'est les riches qui décident, mais peut-être qu'il y en aura un qui va changer les choses, donc vite, vite, on va voter pour lui. Et si c'était lui ? Et ça, c'est Napoléon III. C'est-à-dire, vraiment, le con, mais qui a compris un truc, c'est la force de l'image. Donc, il va vendre une image. Il va mettre le paquet, tout l'argent de maman, dans des publications de cons, bonapartisme, etc., césarisme, tout ce que tu veux, dire le pouvoir, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Alors, les livres que j'ai utilisés, j'ai lu évidemment quelques conneries sur Napoléon, je ne vais pas vous les recommander. Parmi tous les bons livres, parce qu'il y en a eu beaucoup pour cet épisode, les très bons livres sur le directoire et le consulat, ce sont ceux de Marc Bélissa et Yannick Bosque. Et là, j'ai le consulat. Alors, ils ont fait la même chose pour le directoire, mais le consulat de Bonaparte est sans doute le livre que j'ai préféré lire sur le consulat, et même sur Bonaparte. C'est là-dedans que j'ai le mieux compris toutes les spécificités de ce régime qui s'est construit pour les propriétaires et pour les banquiers. Et pour les anciens fournisseurs de guerre qui aimeraient bien que ça recommence, etc., etc. Donc, exactement comment ça fonctionne, c'est très bien expliqué dans le Consulat de Bonaparte. Sublime livre, Le Toussaint Louverture de Aimé Césaire. J'en avais déjà cité quelques passages dans les épisodes sur la Révolution. Là, je l'ai juste évoqué, mais j'ai parlé un peu longuement de Toussaint Louverture. Mais les passages de Toussaint Louverture que je dis, les extraits de lettres et tout ça, c'est dans ce livre. On a tout ça. On a le descriptif de comment ils vont derrière rétablir l'esclavage. Et on va dire les épisodes de députés qui vont venir défendre cette idée, les mots qu'ils emploient, etc. Et tout ça est analysé, mais vraiment de façon sublime, par un poète, Aimé Césaire. Livre indispensable pour comprendre. Alors, vraiment un chef-d'œuvre de l'époque, c'est « Prologue d'une révolution » de Louis Ménard. Je l'ai cité assez longuement, mais le livre entier est à lire. Louis Ménard, donc, c'était un ami de jeunesse de Baudelaire. Ils se sont fâchés pour des trucs de cons. Ils ont été super, super amis. Et puis, c'est des petits fiers, quoi. Donc, ils ont critiqué leurs poèmes respectifs, etc. Louis Ménard n'est pas un aussi bon poète que Baudelaire. Mais c'est un mec formidable. En dehors d'être vraiment un touche-à-tout incroyable, ésotériste, historien, essayiste, philosophe, une espèce de mystique païen, alchimiste. Il a traduit Hermès Trismégiste, etc. Il a suivi, mais quasiment comme un journaliste, les journées de juin qui vont être réprimées avec une violence inouïe. Et c'est lui qui décrit la dégueulasserie de la répression de ces journées de juin, qui étaient, je le rappelle, les journées qui ont été faites de soulèvements parce qu'on avait retiré les ateliers où les chômeurs, les ouvriers qui avaient été mis au chômage par deux choses. Par la mécanisation des tâches, et donc il y avait moins besoin d'eux, et le fait qu'on pouvait la donner à des enfants. Et dernier truc, cet excellent essai de Dolph Oehler, je ne sais pas si je prononce bien, juin 48, le spleen contre l'oubli, qui étudie comment le trauma qu'a été la répression inouïe des journées de juin est devenu un motif littéraire. Ce qui m'a beaucoup importé, c'est pour Baudelaire. Euler explique la présence des journées de juin dans les fleurs du mal. C'est inouï. C'est un travail qui n'avait, à ma connaissance, pas d'équivalent et qui est un des très beaux travaux qui ont été faits depuis Walter Benjamin. Je n'avais pas vu un aussi beau travail sur Baudelaire. Et un dernier livre, c'est un tout petit livre, mais il est dense. C'est Le Testament de Flora Tristan. L'émancipation des femmes ou le testament de la paria. La paria, c'est son surnom. Son livre de voyage, il s'appelle Pérégrination de la paria. La paria, c'est Flora Tristan. Pourquoi ? Parce que c'est cette femme qui pouvait pas divorcer. Donc elle est partie, elle a quitté son mari, elle a vécu sous des faux noms, à droite, à gauche. Elle s'est pas contentée d'errer et de chercher sa liberté, elle a cherché la liberté des autres. Elle a eu l'idée de l'union ouvrière, elle a eu aussi l'idée de l'émancipation des femmes. Elle a théorisé tout ça, mais elle l'a fait avec un style très lyrique et très mystique. Flora Tristan, c'est une mystique. C'est une mystique anarchiste, mais anarchiste, pas sans transcendance. C'est une lecture magnifique. Fini ? Rien n'est fini, évidemment. Parce que le 19e siècle a vu quelque chose apparaître, ou plutôt réapparaître, en France, en même temps que l'oscillation pendulaire entre la fausse gauche et la vraie droite. Ce quelque chose, c'est la poésie. La vraie, pas celle des rimailleurs de cour, pas celle de Voltaire. La poésie comme expression de la vie étrange. Ce dont Arthur Rimbaud parlera en 1870 dans sa fausse lettre de Charles d'Orléans sur François Villon. Je cite Rimbaud. « Ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas. Laissez-les vivre leur vie étrange. » Et si en France, durant la première moitié du XIXe siècle, le génie poétique sera surtout incarné publiquement par Victor Hugo, chef rayonnant, le plus touchant des poètes de ce temps, issu du romantisme mais déjà tout à fait ailleurs et du reste méconnu jusque de ses pairs, est Gérard de Nerval. Il est aussi le plus lucide, comme le lui reconnaîtra Baudelaire, qui le dit « un écrivain d'une honnêteté admirable, d'une haute intelligence et qui fut toujours lucide », peut-être parce qu'il sera le plus directement atteint dans sa vie étrange par des crises successives de folie qui l'emmèneront par deux fois en asile. Né en 1808, fils d'un médecin de la Grande Armée, la mère de Gérard meurt alors qu'il n'a que 2 ans et qu'elle avait suivi son mari dans les guerres napoléoniennes en Silésie. Pourtant, malgré ça, le jeune Nerval va se montrer parfaitement napoléomane. Naguère, on vit marcher cette superbe armée comme un fleuve dévastateur. Sur le front abaissé de l'Europe alarmée, passa son flot dominateur. Très surprenant à lire au vu de la suite, Napoléon, la France et les élégies nationales sont écrites alors que Nerval n'a que 16 ans. Mais ce sont des poèmes dont il aura plus tard honte. Et il ne voudra pas les voir republiés. Et si Nerval fait partie, avec Théophile Gautier, de la claque de soutien romantique à Victor Hugo lors de la bataille d'Hernani en 1830. En juillet de la même année, en juillet 1830, il se retrouve sur les barricades. Et pendant 3 jours, il transporte des munitions et aide à évacuer les blessés et les morts. Pendant la monarchie de juillet, Nerval va être traité de bousingot. Et il va même faire 2 fois de la prison pour ça. Qu'est-ce qu'un bousingot ? Un bousingot, c'est un chapeau de marin que portaient les volontaires du Havre venus au secours des Parisiens en juillet 1830. Et par extension, bousingot désignait un agitateur républicain, ce qu'on appellerait aujourd'hui un gauchiste. Nerval va être traité de gauchiste. Et la presque totalité des textes autobiographiques de Nerval vont évoquer cette révolution confisquée de 1830 et prendre comme appui un sentiment qui ne peut que nous parler, celui de l'impuissance politique. L'impuissance politique chez Nerval, c'est celle de l'après 1830. Ces 18 trop longues années de scepticisme et de découragement politique et social qui succédèrent à la Révolution de juillet. Il le racontera mieux que personne dans Sylvie, dans Les Filles du Feu. Je cite Nerval. C'est un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discords de passé, d'espoir incertain. Alors certes, toute l'activité artistique et poétique en France après 1830 est portée à la fois par la flamme de la Révolution et par le désenchantement des révolutions confisquées. Ainsi même la notion d'art pour l'art, qui va se développer durant toutes ces années, surtout sous la houlette de Théophile Gautier, grand ami de Nerval et premier soutien d'Hugo. Même cette notion est une pensée de révolutionnaire déçue. Mais c'est une idée qui va dépolitiser les écrivains du XIXe siècle. Une idée qui va les rendre misanthropes ou méprisants, quand ils ne deviendront pas carrément réactionnaires. Pas Nerval. Gérard de Nerval restera fidèle à ses convictions de 1830. Il revendiquera sa affiliation initiale en 1849, quand il répondra à un article l'évoquant comme d'un écrivain apolitique. Je cite Nerval. « Je ne suis pas un sceptique ne m'occupant ni de politique ni de socialisme. Dans ce dernier cas, comment auront-on pu me classer parmi les membres de cette association mal appréciée jusqu'ici, qu'on appela les bousingots ?» Comme l'écrit avec justesse l'historien de la littérature Paul Bénichoux, Nerval est le seul parmi ses pairs en désenchantement qui n'affiche pas ce mépris, réel ou prétendu, de la commune humanité, cette déploration de la bêtise universelle dont font parade tous les autres. L'âcre humeur n'a gagné Gérard sous nulle forme. C'est peut-être parce que Nerval a moins renoncé à ses convictions bousingots qu'il ne les a déplacées dans des textes où celles-ci vont intervenir de façon indirecte. Dans des récits autobiographiques, des voyages ou des rêveries historiques, Les Illuminés, Les Filles du Feu, Promenade des Souvenirs, Aurélia, des récits où il fait remonter à la surface du présent un passé qui ne passe pas, un fantôme historique qui continue à hanter les hommes et qui les hantera jusqu'à ce qu'on lui rende justice. Ce qui est nouveau chez Nerval, c'est la découverte, à travers ses promenades et ses souvenirs, de détails de la vie quotidienne renvoyant à des conflits historiques ancestraux. C'est lui qui invente cette pratique de l'observation des signes hors de toute affiliation religieuse, l'observation des hasards objectifs, comme dira André Breton, sans lesquels le surréalisme, entre autres, n'existerait pas. Ainsi, Nerval revivant un soir à Saint-Eustache la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, ou rencontrant un paysan lui parlant des amours entre Jean-Jacques Rousseau et Gabriel Destrée. Mais encore, en plein moment de crise, la façon dont lui revient sa napoléomanie de jeunesse alors qu'il se promène avec son ami Georges. Je cite Nerval. « Pendant que nous traversions le pont des Arts, je lui expliquais les migrations des âmes et je lui disais « Il me semble que ce soir, j'ai en moi l'âme de Napoléon. » Je parcourais la galerie de foi en disant « J'ai fait une faute » et je ne pouvais découvrir laquelle en consultant ma mémoire que je croyais être celle de Napoléon. Il y a quelque chose que je n'ai point payé par ici. Ce n'est pas Nerval qui avait en lui l'âme de Napoléon, c'est tous les hommes de son temps. Mais continuer à napoléoniser après les 6 millions de morts de Napoléon est bien une faute. C'est bien de l'ordre d'une facture non payée. Et puis c'est un problème de regard porté sur la vie. C'est ce que Simone Veil essayera d'expliquer sur cette conception de la grandeur que nous avons héritée de l'Empire romain. Je cite Simone Veil. Les Français sont affamés de grandeur, mais aux malheureux, ce n'est pas de la grandeur romaine qu'il faut. Notre conception de la grandeur est la tare la plus grave. Notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. C'est cette conception de la grandeur, héritée de César et de Rome, qui n'a pas empêché les poètes de la première moitié du XIXe siècle de napoléoniser à qui mieux mieux. Ce rapport au monde était incompatible avec les autres visions de Nerval. Nerval, qui est non seulement le premier écrivain ou poète français à se réclamer des doctrines des gnostiques dans les Illuminés en 1852, c'est-à-dire des 100 rois, mais qui, dans plusieurs écrits, va s'affilier aux descendants d'une secte dite gnostique rejetée par les chrétiens, les caïnites. Les caïnites, Irénée de Lyon les évoque dans son livre « Dénonciation des réfutations de la gnose aux non-menteurs ». Ce sont d'après lui des 100 rois qui considèrent que Caïn, fils d'Adam et Ève et frère d'Abel, ayant tué son frère par jalousie, était en réalité un homme bon et en butte aux attaques du mauvais démiurge. Alors il est probable que l'hérésiologue est confondu avec les Sétiens, dont on a retrouvé les écrits à Nag Hammadi en 1945, des 100 rois qui ne disent pas descendre de Caïn, mais de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Mais peu importe, parce que ce dont il s'agit ici, comme souvent avec les 100 rois, c'est d'une lecture alternative de la Bible ou des récits de la Genèse. Une lecture dans laquelle celui qui est présenté dans la Bible comme le Dieu Seigneur est dépeint comme un faux Dieu, fou et méchant. Dans la Genèse, Caïn est cultivateur, alors que son frère Abel est berger. Et ils présentent tous les deux des offrandes au Seigneur, mais ce dernier préfère l'offrande d'Abel. Je cite la Genèse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Oui, le démiurge préfère la viande aux légumes, c'est un bidochard. Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Nerval va mettre en scène Caïn lui-même dans un étrange récit, « Histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des génies », histoire qu'il dit avoir entendue de la bouche d'un conteur de rue à Constantinople, mais qu'il a peut-être inventé. Dans le récit de Nerval, Caïn explique son geste par l'inégalité de leurs tâches. Lui, Caïn, l'agriculteur, travaille toute la journée, tandis qu'Abel, le berger, passe son temps à se prélasser. Nerval fait alors de Caïn le père de tous les travailleurs et d'Abel l'ancêtre de leurs exploiteurs. Je cite Nerval. Travaillant sans cesse, explique Caïn, arrachant notre nourriture au sol avare, inventant pour le bonheur des hommes des charrues qui contraignent la terre à produire, faisant renaître pour eux, au sein de l'abondance, cet Éden qu'ils avaient perdu, j'avais fait de ma vie un sacrifice. Tandis que j'arrosais de mes sueurs la terre où ils se sentaient rois, oisifs et caressés, Adam paissait ses troupeaux en sommeillant. Je me plains, nos parents invoquent l'équité de Dieu, nous lui offrons nos sacrifices, et le mien est rejeté avec mépris. C'est ainsi que ce dieu jaloux a toujours repoussé le génie inventif et fécond et donne la puissance avec le droit d'oppression aux esprits vulgaires. Son père Adam intervient alors durant cette prise de parole et reproche à Caïn les tyrannies subies ensuite par les hommes, tyrannies suscitées par la colère du démiurge. C'est à cause de toi, dit Adam, que Jéhovah a suscité des prêtres qui ont immolé les hommes et des rois qui ont sacrifié des prêtres et des soldats. Un jour, il fera naître des empereurs pour broyer les peuples, les prêtres et les rois eux-mêmes. La Napoléomanie était incompatible avec cette vision à la fois sensible à la condition des travailleurs et hostile à toute forme d'autorité, qu'elle soit religieuse ou politique, a fortiori impériale. Elle était incompatible avec une lecture mystique associant les poètes aux prolétaires dans la malédiction qu'ils subissent de la part du démiurge. La Napoléomanie était également incompatible avec le rapport de Nerval à l'amour. Nerval, amoureux transi d'une comédienne et chanteuse, Jenny Colomb, et portant son deuil une fois celle-ci décidée. Nerval écrivant ses vers fameux. « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. »
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie.
On ne pouvait pas être plus loin de Napoléon, misogyne assumé et ennemi de toute sentimentalité. Napoléon, dont Stendhal, napoléomane critique, décrivait avec dégoût le rapport à la sexualité. Je cite Stendhal. L'empereur assis à une petite table, l'épée au côté, signait les décrets. La dame entrait, il l'a priée de se mettre au lit sans se déranger. Bientôt, il la reconduisait lui-même avec un bougeoir et se remettait à lire ses décrets, à les corriger, à les signer. L'essentiel de l'entrevue ne durait pas 3 minutes. La Napoléomanie n'était pas seulement incompatible avec la vision politique de Nerval, avec sa vision spirituelle et avec sa vision de l'amour. Elle était incompatible avec sa personnalité. Une personnalité notoirement douce, altruiste, serviable, qui a stupéfait ses contemporains qu'il appelait le « gentil Gérard ». Oui, comme Rousseau, Nerval est un écrivain qu'on appelait par son prénom. La Napoléomanie était incompatible avec sa vulnérabilité. Une vulnérabilité qui n'avait existé précédemment que chez les successeurs arabes et perses des 100 rois, les poètes et mystiques soufis, et qu'on ne retrouvera aussi splendidement exploré ensuite que dans la musique soul. Chez Otis Redding, par exemple, dans ses chansons d'hommes tendres et passionnés. « Try a little tenderness. I've been loving you too long. » ou « Fa, 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 sad song. » Otis Redding, auquel Nerval ressemble tant. La Napoléomanie est une idée fixe. C'est celle de la gloire. Celle que l'ambition individuelle est une qualité humaine qui devrait être matériellement couronnée par le succès et qui n'est entravée que par la jalousie des autres. Et cette idée ne nous a pas quittés, puisqu'elle est la conséquence de l'advenue d'une démocratie qui ne s'est pas accompagnée d'une compréhension de l'intérêt général, mais s'est éparpillée dans la confusion des intérêts privés. Napoléon, c'est ce que produit la démocratie lorsqu'elle décide d'ignorer la justice sociale. C'est ce que produit le capitalisme quand il a peur. Tant qu'on n'aura pas définitivement compris que la seule et unique solution sera révolutionnaire, à la fois politique, spirituelle et poétique, on continuera à faire mumuse avec des hommes providentiels et un mélange de hochets et de massacres pour récompense. Et toutes ces saletés nous rentreront dans l'âme. Le premier poète à ne pas napoléoniser sera également le premier à vraiment aimer Nerval d'amour. Ce sera Charles Baudelaire, encore une fois, écrivant pour la préface inachevée des Fleurs du Mal cette phrase qu'on devrait graver sur le fronton du Panthéon, « Le grand homme est bête !» Oui, il aura fallu Napoléon III pour venir à bout du culte de Napoléon chez les poètes. Désormais, il n'y aurait plus que des droitards fragiles qui ont besoin de se prouver à eux-mêmes leur virilité pour continuer à napoléoniser. À partir de Nerval et de Baudelaire, la quête du poète, se confondant avec celle des 100 rois, ne peut plus se confondre avec la gloire. Les poètes ne chercheront plus à s'imposer au centre de la société, ils se tiendront dans la marge parmi les freaks. Leur grandeur ne sera plus celle de César ou de Napoléon, elle sera de donner de la voix à ceux qui sont sans voix. Comme dira Antonin Artaud, c'est pour les analphabètes que j'écris, les paroles sont un limon qu'on n'éclaire pas du côté de l'être, mais du côté de son agonie. Et de même que Philippe K. Dick avait opposé César et le Christ, on opposera Toussaint Louverture et Napoléon, Flora Tristan et Napoléon, Otis Redding et Napoléon, Gérard de Nerval et Napoléon. Oui, tel est le récit sous-jacent rapporté à travers les âges depuis 2000 ans et qui en même temps n'est jamais rapporté. Non, rien n'est fini, rien n'est jamais fini. Nous sommes en 1870, à la fin du règne de Napoléon III, avant les dernières arnaques minables qui précipiteront sa chute. Flora Tristan est morte depuis 26 ans, Balzac depuis 20 ans, Nerval depuis 15 ans, Baudelaire depuis 3. Et nous sommes le 10 janvier. Un connard tire 6 balles à bout portant sur Victor Noir, un jeune journaliste qui s'était rendu à son domicile en qualité de témoin. Il l'avait pris pour un autre. Le connard va être acquitté. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Bonaparte. Pierre Bonaparte, un cousin du neveu. Il faudra ce troisième Bonaparte pour réveiller la possibilité d'un renversement de situation. Et le 12 janvier 1870, ce sont les funérailles de Victor Noir, dont le corps est conduit au Père-Lachaise. Et ces funérailles sont une sorte de parade anticipatrice des événements à venir, presque une bande-annonce. 200 000 personnes suivent son convoi sur les champs, toutes les corporations ouvrières, des étudiants et tous ceux qui, un peu plus d'un an plus tard, vont vivre le plus grand, le plus beau et le plus tragique moment de toute l'histoire de France, la Commune de Paris. Dans cette foule, il y a Louise Michel. Elle a 40 ans et elle porte sur elle un poignard. Le cortège s'allongeait immense, répandant autour de lui une sorte de terreur, écrira Louise Michel. À certains endroits d'étranges impressions passées, on avait froid et les yeux brillaient comme s'ils eussent été de flammes. Il semblait être une force à laquelle rien ne résisterait. C'est quand vous croyez avoir compris l'histoire qu'elle vient de vous échapper. C'est quand vous êtes épuisé qu'elle revient vous chercher. C'est quand vous la saisissez au vol, qu'elle vous glisse entre les doigts. C'est quand vous pensez que c'est fini, que ce n'est pas encore commencé. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 2 de Rabelais à la Révolution. Il s'ajoute au premier tome et sort 7 semaines aux éditions Florent Massot et Blast. Il contient même un texte supplémentaire, Quid de Sade, sur Sade et la Révolution. Il sera dès le 16 octobre dans toutes les bonnes librairies. Et le lancement aura lieu ce mercredi 15 octobre à 19h à la librairie Le Mont-en-l'Air, 2 rue de la Mare, Paris 20e arrondissement. Vous êtes les bienvenus. Et si vous n'aimez pas cette histoire du 19e siècle perçue comme une lutte contre la Napoléomanie, nouvelle arme de la guerre des riches contre les pauvres, alors dites, avec Louis-Napoléon et Louis Sarkozy et contre Nerval et Baudelaire, que le grand homme n'est pas bête et qu'il offre au peuple, sinon le bonheur, un nouveau départ.
Bonne chance, mon papa.
Image, Cyprien Bizot. Assistant montage, Mehdi Lacal. Graphisme, Margot Simon. Graphisme, Morgane Sabouret. Musique, Baptiste Veillant. Son, Théo Duchesne. Réalisation, Mathias Enthoven. Réalisation et montage, Ameyes Aitofela.
Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût.